Au Royaume-Uni, malgré les attentats du week-end, les élections sont maintenues pour jeudi. Dominique Bayard, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Au moment où Theresa May avait décidé de convoquer ce scrutin, l'économie britannique était florissante. Est-ce toujours le cas ?
Le Royaume-Uni va plutôt bien sur le plan économique. La croissance de plus 1,8% en 2016, le chômage au plus bas, contredisent les prévisions alarmistes faites avant le référendum et annonçant le déluge en cas de vote favorable au Brexit. Mais ces chiffres rassurants sont en évolution constante, évidemment. Et au premier trimestre, le rythme de la croissance britannique a été très décevant, voire inquiétant. Seulement 0,2 petits points de croissance sur les trois premiers mois de l'année. C'est le plus mauvais score des pays du G7. Un résultat qui contraste fortement avec celui du dernier trimestre 2016. Le Royaume-Uni affichait alors plus 0,7% de croissance. C'était le premier de la classe des pays des plus riches.
Comment expliquer, Dominique, ce ralentissement soudain ?
C'est à cause des ménages britanniques qui ont subitement réfréné leur désir d'achat. Un exemple avec le marché automobile. D'après les chiffres publiés ce matin même, au mois de mai, les ventes de voitures neuves ont chuté de 8% par rapport à l'an dernier. En avril, c'était bien pire, moins 20%. Étant donné que la consommation est le principal moteur de la croissance britannique, ce coup d'arrêt s'est donc très vite ressenti dans toute l'activité du royaume. Les consommateurs, il faut le savoir, ont été refroidi par l'augmentation générale des prix. Une augmentation provoquée par la dépréciation de la livre, moins 14% face à l'euro depuis le référendum. Ça pèse d'autant sur la facture des importations. L'inflation est donc en train de revenir au galop. Elle pourrait monter jusqu'à 3% d'ici la fin de l'année. Pour le moment, les salaires ne suivent pas, d'où une perte sèche de pouvoir d'achat en perspective. C'est la Banque centrale d'Angleterre qui l'affirme dans ses dernières prévisions.
Et dans ce contexte, pourquoi les employeurs britanniques n'augmentent-ils pas leurs salariés ?
D'une part parce qu'ils font un calcul assez cynique. Une partie de leur masse salariale est liée au petit boulot à temps partiel mal payé que les Britanniques les plus pauvres multiplient pour boucler les fins de mois. Étant donné la pression de cette demande, ils n'ont pas besoin de relever les salaires pour recruter. D'autre part, parce que ces entreprises sont toujours en mode attente. Faute de visibilité sur les négociations du Brexit, elles n'ont toujours pas commencé, les dirigeants d'entreprises restent prudents. Ils évitent de prendre des décisions susceptibles d'alourdir leurs charges, alors qu'ils ne savent pas encore ce qui les attend vraiment.
Et ils redoutent notamment l'absence d'accord commercial avec l'Union européenne.
38% des importations britanniques proviennent de l'Union européenne et près de la moitié des exportations britanniques partent de l'autre côté de la Manche. Ces deux chiffres résument bien la surexposition de l'économie britannique au risque d'un Brexit dur. En clair, le pire est à venir en matière d'augmentation des prix de détail et des coûts des entreprises. Mais pour le moment, cela ne se voit pas car la chute de la livre a aussi un bon côté, elle a dopé les exportations du Royaume-Uni.